Bonjour à tous. Ce soir, nous allons faire une lecture dans Ésaïe, chapitre 5, verset 8. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Que Dieu bénisse ces quelques paroles que je vais vous donner ce soir. Je pense que vous êtes tous au courant que Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens le disent. Il y a des gens équilibrés qui le disent, des gens moins équilibrés qui le disent aussi, à leur façon. Nous, cette année, nous fêtons nos 40 ans de vie communautaire. Et quand on témoigne de cela, beaucoup nous regardent comme si on était des bêtes curieuses. Mais comment faites-vous? Oh là là, moi je ne me vois pas vivre en communauté. Alors, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur une réponse, quelque chose à dire à ce sujet, et voilà ce qui m'est venu. Alors je vous le donne comme ça, tel que, vous connaissez, hein, vous avez l'habitude. Les gens sont obligés de vivre en collectivité, mais ils n'ont pas résolu leur problème de la vie collective. Alors ils ont formé une société, c'est vrai, mais par obligation. Hier soir, je regardais une émission à la télévision où on parlait des problèmes dans les hôpitaux. Manque d'effectifs, manque de moyens. Et en fait, il y a des suicides chez les infirmières, chez les médecins. Il y en a qui quittent leur poste parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est trop difficile. On a formé une société, mais par obligation. Il y a des malades, alors il faut agrandir les hôpitaux, mais il n'y a pas d'argent pour ça, etc., etc., etc. C'est des obligations. Cependant, au-dedans d'eux-mêmes, les gens restent isolés, séparés, et même agressifs les uns vers les autres. On voyait aussi dans cette émission, les gens, dans les urgences, comment ils se comportent, c'est terrible. Mais il y a des souffrances. Est-ce que vous connaissez des troglodytes? Le troglodyte, c'est un petit oiseau, un petit passereau. Jésus dit qu'il aime les petits oiseaux, hein, et qu'il n'y a pas un petit oiseau qui tombe sans que ça soit dans sa volonté, qu'il prend soin d'eux, qu'il les nourrit. Le mot troglodyte vient du grec qui signifie caverne. Plus exactement, ça signifie plonger ou pénétrer dans une caverne. Et ben voilà ce qu'est l'homme d'aujourd'hui, un troglodyte. Chacun vit dans sa caverne, ils vivent dans ce qui normalement n'est pas destiné à être un habitat. Ça rend la vie difficile. Ils vivent chacun dans leur petit trou. Et quand vous les voyez, vous pouvez penser qu'ils sont liés. Mais intérieurement, ils vivent leur petite vie comme des troglodytes seuls. Hein, quand vous voyez ces grandes barres d'HLM, on pourrait penser, ils vivent en communauté, ces gens. Non, pas du tout, ils se connaissent même pas. À peine s'ils se disent bonjour dans l'escalier. Leur système de société n'est pas celui voulu par Dieu. Et pourtant, Dieu veut que nous vivions en société, ensemble. Mais pas n'importe comment. Quand vous lisez attentivement la Bible, vous voyez que les villes, ce sont des cibles. Pourquoi? Parce que dans les villes, c'est là qu'on oublie le plus facilement Dieu. C'est dans les villes que se commettent les plus grands nombres d'iniquités, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de gens, et puis les gens ne se connaissent pas, et ils se permettent de faire n'importe quoi. Enfin bon. Dans Luc 21-21, Jésus dit que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes. Le conseil de Dieu, c'est de rétablir d'abord, premièrement, en soi-même une association qui nous conduira vers une véritable fraternité avec les autres. C'est parce qu'il y a en soi-même des brisures, des cassures, des fêlures que l'homme, la femme vit comme un troglodyte, se cache dans son trou. Les gens ne sont pas intègres dans le sens où ils ne sont pas entiers. Ils sont pleins de confusion, de contradiction. Alors c'est en eux-mêmes qu'il faut d'abord créer une association, une unité. Avant cela, ce n'est pas possible de vivre en unité avec les autres. Quand on est tout brisé à l'intérieur, tout cassé à l'intérieur, alors ils ne sont pas prêts à vivre en communauté, c'est certain, comme les premiers chrétiens le vivaient. Je vous rappelle que les premiers disciples de Jésus, c'était les 12. Et ils vivaient en communauté avec Jésus. Puis Jésus leur a dit, « Tout ce que je vous ai enseigné, enseignez-leur. Faites des disciples. » Le disciple, il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Et c'est ce que les disciples ont fait le jour de la Pentecôte. Ils ont annoncé le message de Jésus. La première chose, c'était de se repentir, ensuite d'être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, puis d'être dans l'esprit, et puis ils se sont mis à vivre ensemble. Non pas sur un coup de tête, mais parce que c'était normal. Jésus avait montré que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors pour vivre en communauté, il faut avoir appris le renoncement. Et cela, c'est pas tellement bien vu de nos jours. Et pourtant, c'est ça qui apporte du bien. C'est un prix à payer pour une bonne vie. Mais les gens préfèrent la solitude. Une espèce de communion fraternelle superficielle le dimanche matin. Ils préfèrent ça au renoncement à leur petite vie de troglodyte. Alors donc, avant de vouloir vivre en communauté, il faut que le chrétien d'aujourd'hui réalise, dans le sens de rendre réel, il faut que le chrétien d'aujourd'hui rende réel une société à l'intérieur de lui, qu'il prenne soin de lui. Si les chrétiens qui disent que la Bible est la parole de Dieu, et ils ont raison de le dire, se mettaient à vivre ce qu'elle enseigne, ça serait déjà un commencement. Prenons le cas des chrétiens juifs. Là, c'est tellement clair, tellement clair. Il est dit que Dieu ramènera les juifs sur leur terre en Israël. Eh bien, pourquoi un juif chrétien passe-t-il du temps à prier pour demander à Dieu quelle est sa volonté? Elle est écrite. La volonté pour ta vie, toi, mon frère juif chrétien, c'est que tu ailles en Israël. La volonté de Dieu, elle est clairement exprimée dans la Bible, et c'est pour notre temps. Alors, plutôt que de le faire, il se donne des excuses. « Ouais, Israël, c'est un pays du veau d'or. Israël, ah bon ?» Eh bien, au lieu de critiquer, eh bien, va y vivre et ça sera l'occasion, n'est-ce pas, de démontrer ce que c'est que de vivre la foi en Dieu. C'est l'occasion de descendre de ta montagne pour aller briser le veau d'or avec amour, avec l'amour de Jésus dans ton cœur. Au lieu de juger Israël, attention, parce que quand on juge Israël, aïe, oh là là là. Au lieu de juger Israël, que Dieu rétablit, tels les ossements de la vision d'Ézéchiel, au lieu de juger Israël, il faudrait déjà commencer par prier pour Israël. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour un chrétien juif. Il veut que vous alliez y vivre et que vous y soyez un témoignage. Mais bon, on peut comprendre, vous avez peur. Eh oui. Depuis des années, là-bas, les bombes explosent et tout et tout. Mais ça commence à péter chez nous aussi. C'est plus une excuse. On peut avoir peur aussi chez nous. Donc, vous qui êtes juifs, qui avez ce privilège d'être du peuple choisi de Dieu, allez vivre là-bas. pourquoi avoir peur ici? Vous pouvez très bien avoir peur là-bas. Avoir la foi là-bas. Apporter quelque chose de bon là-bas. C'est comme les chrétiens qui disent, il n'y a pas d'amour dans mon église. Ben, apporte-en, il y en aura. C'est sûr qu'Israël n'est pas parfait. Mais si tu y allais, mon frère, ma soeur juive, peut-être qu'il y aurait déjà un petit grain de perfection qui rentrerait, non? Mais vous êtes tellement mieux dans votre petite vie de troglodyte planqué, hors de l'endroit où Dieu vous convie. C'est pareil pour les chrétiens, hein? Ils pleurnichent. Qu'est-ce que j'en vois défiler chez moi, des gens, des chrétiens qui pleurnichent parce qu'ils sont pas contents de leur vie d'église, ils sont là en randonnion, ça n'arrête pas de pleurnicher. Mais là, qu'est-ce que dit la Bible? Sortez du milieu d'elle. Ben foutez le camp, sortez. C'est ça que Dieu veut. Sortez de ces trucs. Sortez du milieu de ces machins, là, de ces clubs chrétiens qui se donnent pompeusement le nom d'église. Et puis, vivez en communauté comme les premiers chrétiens. Ça, c'était notre grand problème à nous quand on s'est retrouvés virés de Teen Challenge comme des malpropres. Toute l'équipe a été virée, hein, par des hommes d'affaires, n'est-ce pas, très spirituels. Après 7 ans de loyaux services, on nous a virés. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on est allé voir les églises. Moi, Michel, t'es trop américain. Oui, oui, bien sûr, j'avais eu une influence pendant 7 ans dans une mission américaine. Alors, évidemment, j'avais pris quelques façons américaines et qui ne plaisent pas aux Français de base. Alors, bon, j'ai vite compris que j'étais pas tellement désiré. Alors, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis sorti. Mais je suis sorti, j'ai fait quoi? Je suis resté tout seul à regarder les émissions télé chrétiennes, il n'y avait pas à l'époque, heureusement. J'ai créé une communauté. J'ai cherché dans la Bible, j'ai vu que les premiers chrétiens vivaient ensemble. On n'était pas nombreux. On était quoi? Il y avait 4-5 au commencement. Alors, sortez du milieu d'elle, c'est ça que Dieu veut pour nous à notre époque, et puis vivez en communauté comme les premiers chrétiens, mais vous ne le ferez pas. Ah oui, sortir des églises, ça vous le ferez. Il y a plein de gens qui sont sortis des églises, et puis qui vivent comme des troglodytes dans leur appartement, pardonnez-moi. Vous allez dire que je suis dur, ouais, ben oui, c'est, voilà. Non, Michel, tu es dur, ben oui. J'aimerais tellement être gentil, puis dire des choses agréables, tout le temps, puis parce que j'aime être aimé, hein, j'aime bien qu'on m'aime aussi, moi. Mais voilà, Dieu m'a chargé d'un message. Vous avez une vie spirituelle dans votre vie de troglodyte, vous venez écouter les messages de Michel Jonton sur Révélation Bible. Quelle belle affaire! C'est pas ça la volonté de Dieu. Je dis pas qu'il faut plus venir m'écouter, mais c'est pas ça que Dieu veut, c'est pas ça l'Église. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez un seul cœur, une seule âme avec vos frères et sœurs, que vous persévériez dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle. Vous voyez ce qui est écrit dans la Bible, en fait. Mais cela ne se fera pas tant que chacun ne sera pas cohérent. Cohérence. La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Michel, alors je reçois des lettres. Oui, alors maintenant, tu rajoutes à la Bible, tu as le livre de Mormon. Ah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon, alors déjà, premièrement, je ne mets pas le livre de Mormon au même niveau que la Bible, mais ensuite, au moins, la Bible, quand je trouve quelque chose qui est dit et qu'on doit faire, ben, je le fais. Et vous? Alors, ne lisez surtout pas le livre de Mormon, lisez déjà la Bible et faites ce que vous trouvez dedans. Hein, Michel, tu vois, t'es dur. Oui, ben oui. Vous avez déjà vu, vous, des serviteurs de Dieu qui chatouillent les ailes des gens? Non, en général, ceux-là, c'est les faux. Tout le monde évangélique parle du retour imminent de Jésus. Et vous? Vous croyez que Jésus va revenir? Ben vous avez raison. Mais c'est quoi être prêt pour son retour? C'est quoi être prêt pour partir dans l'enlèvement?
C'est connaître la date de l'enlèvement?
Non, monsieur, c'est pas ça. C'est pas ça. Être prêt, c'est avoir l'huile qu'il faut pour aller à sa rencontre. L'huile qui permet d'allumer le feu qui éclaire notre chemin pour aller à sa rencontre. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit, il conduit les disciples dans toute la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est pas un truc métaphysique. Je veux dire, c'est l'huile dans la lampe, ça sert à allumer la lampe. La lampe, ça sert, une fois qu'elle est allumée, à voir là où on pose nos pieds. Pour nous guider, pour nous permettre de ne pas trébucher sur le chemin, pour aller à la rencontre du Seigneur. Le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit vous conduit, vous les Juifs messianiques, est-ce qu'il vous conduit en Israël?
Ah oh ben non, je me sens pas poussé.
Ben oui. T'es sûr que tu te sens pas poussé? T'es sûr que tu résistes pas un peu là? Vers quoi le Saint-Esprit conduit-il les disciples de Jésus? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais qu'en pensez-vous? Non, Michel Janton, c'est pas un prophète. Il a des guérisons, mais voilà, bof, bof, bof. Il interprète la parole de Dieu. Ce qu'il dit, c'est pas Dieu qui me le dit. Non, voilà. Non, je vais rester dans ma caverne comme un bon troglodyte tout seul. Voilà. Oh, hein, ben j'ai déjà vu, je sais bien, non, on me la fait plus à mon âge, non, bon.
Il y a quoi sur la télé?
T'as vu, il y a eu encore un tremblement de terre au Mexique, mais c'est terrible, tous ces pauvres gens. Moi j'ai envoyé 10 euros pour les aider. Oui, et puis toutes ces inondations, mais c'est terrible, c'est vraiment la fin des temps. Mais madame, je vous le dis. Et puis toutes ces guerres partout, mais pourquoi, on se demande? C'est pour le pétrole, mais vous jouez. Bien sûr, c'est pour le pétrole. Bon, j'en achète du pétrole, mais il faut bien, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que j'aille dans ma caverne après être sorti de mon travail si j'ai pas de pétrole dans ma voiture? Vous voyez, c'est une folie, ce qu'on est en train de vivre sur cette terre aujourd'hui. Mais mon Dieu, que ça va mal. Tous les signes sont là. Ouais. Jésus va revenir bientôt, oui. Faut être prêt. Oh, ben oui, faut être prêt, madame, ça c'est sûr, mais oui. Bon, dimanche prochain, on priera pour être plus mieux prêt. Alors à dimanche. Au revoir. Faut quand même pas être fanatique, on va quand même pas vendre notre frigidaire et puis notre voiture et puis notre petit studio pour aller vivre en communauté avec Jean-Anton, mais tu te rends compte, mais il rigole, lui. Mais c'est un fanatique, tu sais. Bon, c'est vrai, les premiers disciples, ils ont fait ça, mais c'était des fadas. Hein, puis d'abord, Dieu a envoyé la famine pour les diviser, pour plus qu'ils vivent en communauté, t'as bien vu. Hein? Vous voyez, les chrétiens ne comprennent pas pourquoi Jésus a voulu une église communautaire. Une église communautaire est la preuve de l'amour inconditionnel de Dieu dans un endroit témoin. À quoi les gens de ce monde troublé reconnaissent-ils que nous sommes chrétiens? Sinon à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors oui, mes frères et sœurs de la communauté, vous qui êtes de la communauté, continuons sur notre chemin. N'écoutons pas les usurpateurs qui nous apportent des idées bizarres. C'est des idées qui nous sont inutiles. Elles viennent d'un monde qui est en évolution, disent-ils. L'évolution. Vous voyez à quel point ils sont aveugles. Le monde en évolution. Ah oui, mais tu sais, au début, c'était pas comme ça, mais maintenant, ça a évolué, l'Église, c'est plus comme avant. Ah oui, c'est une évolution, vous trouvez. Et puis les mœurs, c'est une évolution aussi, hein? C'est l'esprit de ce siècle, oui. Puisqu'on mange, c'est une nourriture évoluée aussi, hein? Oh ben oui, Michel, quand même, on peut manger des tomates en plein hiver, c'est génial. Ouais. Et la barbarie tueuse, c'est une évolution aussi, peut-être, hein? Une évolution de quoi? L'évolution du style de vie diabolique, oui. Voilà. Nous, on est des archaïques. On est les archaïques du monde. On vit en communauté, un truc inventé par 12 bouseux d'il y a 2000 ans à Jérusalem, qui n'avaient rien compris, puis qui sont gourés. Voilà ce qu'on est, des archaïques. En vivant en communauté, nous accomplissons la volonté de Dieu, celle qui est écrite. C'est-à-dire que nous travaillons avec lui pour préparer le chemin du retour du Seigneur, pour rater son retour. Vous ne le croyez pas? C'est pas trop grave. Dieu aime les troglodytes aussi, comme je vous le disais au début. Mais je sais que parmi ceux qui viennent sur Révélation Bible, il y en a qui vont tout à coup se réveiller et puis qui vont le faire. Pour le moment, ils se débattent avec leurs doutes, avec leurs situations difficiles, professionnelles, familiales ou autres. Mais mes frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. Dieu vous voit, il vous aime et il ne vous condamne pas. Il sait que vous aspirez à une façon de vivre plus près de lui, plus près de la véritable communion fraternelle. Continuez d'y aspirer. Dieu va dégager votre chemin. La vérité ne change pas. Elle veut se manifester sur terre à nouveau. Soyez de ceux qui participent à cette manifestation de la vérité. Laissez les troglodytes qui critiquent. Laissez-les. Vous, élevez votre âme, élevez votre esprit vers la vérité rétablie. Ne mangez pas à tous les râteliers. Choisissez votre nourriture spirituelle. Moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. J'avais plusieurs choix en venant à Jésus, hein. Et vous aussi, ben, vous en avez plusieurs. Choisissez le berger qui vit la parole, pas celui qui en parle le mieux. Dieu, notre Père Céleste, vous aime. Il aime tout le monde. Il aime aussi les troglodytes. Et moi aussi, je vous aime. Mais j'ai un problème. Je dois vous délivrer le message. J'ai été envoyé pour ça. Je le fais, sachant que ça ne va pas m'apporter que des roses. Cela ne me rend pas sympathique aux yeux de la majorité des gens. Mais j'aimerais mieux avoir un message qui ne parle que du salut, de la guérison. Voilà. Comme ce que je fais en Afrique, en fait. Là, c'est super. Je parle du salut, de la guérison, les âmes sont sauvées, les gens sont guéris, on construit de nouvelles églises. Je prêche rien d'autre que ça. Et tout le monde m'adore. Et c'est merveilleux. Mais ça, c'est une partie de mon ministère. C'est mon bâton d'évangéliste. Mais bon, Dieu m'a chargé de dire ces choses pour avertir son peuple, parce que son retour est proche. Ne vous laissez pas troubler par ceux qui donnent des dates. Certains disent de très belles choses, de très grandes vérités. Et les disent très bien. La seule chose que je ne peux pas supporter, c'est qu'on vienne me faire des calculs pour me donner des dates. Il faut être prêt tout le temps. Tout le temps. Que Dieu vous et que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, mes frères et sœurs. Vraiment. Et vous êtes prêts tout le temps. Là, j'ai une de mes chères amies qui m'a écrit un petit mot. Mon frère est parti vers le Seigneur dans la nuit en dormant. Ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Il n'y a pas besoin que Jésus revienne pour Il faut être prêt tout le temps. Il peut revenir pour vous, spécialement vous chercher vous, est-ce que vous êtes prêt? J'ai un autre cher ami qui, lui, c'est Arthur Alamand, a organisé avec Pierre Gilbert des tournées à travers toute l'Europe, il a prêché au Canada, en Amérique, partout, toujours au sujet du retour de Jésus, et vraiment, ben, il est mort sans voir le retour de Jésus. Il aurait tellement bien voulu voir participer à cet enlèvement, mais il n'a pas participé à cet enlèvement. Peut-être vous participerez pas à l'enlèvement, peut-être vous mourrez avant. Dieu ne pose pas une carte de visite en disant « voilà, je viens te chercher demain soir à 22h30 ». Non, il vient, pouf, et t'es mort. Est-ce que tu es prêt? Je me souviens, il y a quelques jours, quelqu'un me disait « oh, j'aimerais être baptisé vraiment tout de suite, tout de suite ». Je dis « non, on va attendre encore un petit peu, et puis on le fera, ne t'inquiète pas, Dieu voit que tu veux le faire ». C'est ce qui compte, c'est que Dieu voit que tu veux le faire. Alors même si tu meurs sans l'avoir fait comme tu veux le faire, c'est comme si ça sera la même chose. Pour Dieu, aux yeux de Dieu, c'est comme si tu l'avais fait. Eh bien, pour tout ce que je vous enseigne, c'est la même chose. Mais il faut quand même un jour agir. Voilà, je vous laisse avec ça, méditer, prier, demander à Dieu. Plutôt que de critiquer, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va vous répondre. Il a dit qu'il nous répondrait, si on demande, il va le faire, il va vous bénir. Allez, à bientôt. Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ils ont eu du courage. Je te prie pour eux, pour qu'ils aient le courage de faire encore un pas, et encore un pas, et encore un pas. Je te prie, Seigneur, qu'ils aient l'huile nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Merci, Jésus. Amen. Au revoir.